France Culture, il est 10h et comme chaque jour depuis le début de la semaine, c'est le moment de vous retrouver pour une dernière fois, Anne Wiazemski. Vous avez choisi aujourd'hui un texte de votre grand-père qui parle de Mozart.
La musique de Mozart est une remontée délicieuse mais exténuante vers les sources. Quand nous étions enfants, entre toutes nos promenades, il en était une dont on ne pouvait parler sans que je fusse inondée de bonheur et d'inquiétude. Nous allons aller aux sources de la Hure. C'était le ruisseau qui coulait en bas de notre jardin.
Mozart de nouveau, donc avec un extrait des Noces de Figaro, chanté ici par Teresa Berganza, révélation du Festival d'Aix-en-Provence. C'était en 1957 et François Mauriac était sans doute dans la salle. Il y avait un an d'ailleurs que chez lui, à Malagar, avait sonné un jeune homme. Ce jeune homme est mon invité d'aujourd'hui, Philippe Solers. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc pour vous un anniversaire puisqu'il y a 50 ans que se produisait votre première rencontre avec François Mauriac.
Je réentends souvent, en face de moi, la voix rauque et déchirée de Mauriac. Vous comprenez, le chide, n'est-ce pas ? C'est un homme délicieux, raffiné, auquel ami j'étais, mais en fait, il se rendait pas compte que ce qu'il faisait était mal. C'était bizarre. On peut faire le mal, le savoir, mais lui, ça, voilà. C'est tout de suite cette voix, un concert. Drôlerie sérieuse, cruauté sèche, envolée lyrique interrompue par un fou rire, chuchotements indignés, méditation, anecdote, portrait féroce en douceur. Combien de fois j'ai vu Mauriac chez lui, on parlait, et tout à coup il sortait quelque chose d'épouvantable, alors la main devant la bouche et se renversant dans ses coussins, puisqu'il écrivait sur ses genoux, sur un lit, avec un fou rire très, très frais. Cette voix est là dans ses romans, bien meilleure qu'on le dit. Par exemple, Terre des Kérous, s'appellerait Poison. Quel titre idiot, enfin on dirait un titre des frères Goncourt. Mais récemment on m'avait demandé d'écrire là-dessus à propos des, enfin j'ai relu Thérèse Descarroux, je m'attendais à m'ennuyer, à trouver ça dépassé, etc. J'ai été de la première ligne à la dernière, comme ça c'est d'une force de frappe considérable, hein. Poison, ça aurait dû s'appeler Poison. Et dans son bloc-notes, c'est peut-être son chef-d'œuvre, et ses chroniques plus brillantes qu'on ne croit. Une étrange liberté, un feu, une foi, une malice. Je prendrai la politique, dit-il, je la baptiserai littérature, et elle le deviendra aussitôt. Le secret de Mauriac, sa religion, bien sûr, mais aussi ses passions littéraires. Les noms qui reviennent le plus souvent chez lui sur fond d'évangile, c'est Pascal, Rimbaud, Proust. Et puis la musique a commencé par Mozart. Proust, c'est vraiment l'écrivain dont il me parlait sans cesse, et lui seul, je ne trouvais personne avec qui parler de Proust à cette époque.
Quand vous lisez un texte, Philippe Solers, sans répondre donc à la question que je vous ai posée, et à laquelle pourtant il va bien falloir que vous répondiez à un moment ou à un autre, ce sont, j'y réponds à votre place, les noces d'or de votre rencontre avec François Mauriac. Et par ce texte que vous lisez en portrait, vous faites un hommage, j'ai l'impression que c'est un hommage, à François Mauriac, qui lui-même, quand vous êtes allé le voir une première fois à Malagar, que vous étiez très jeune, écrivait une dédicace sur les chemins de la mer. Est-ce que vous vous souvenez de cette dédicace qui n'est pas celle que...
J'en ai apporté une autre.
Oui.
Voulez-vous
que je vous la rappelle ?
Oui, merci.
À Philippe Joyot, en souvenir de sa visite à Malagar un soir d'octobre 56, pour qu'il s'en souvienne dans 50 ans.
Ah oui.
Donc 50 ans, c'est maintenant. Est-ce que ça joue cette dédicace?
Oui, bien sûr, c'est très important cette rencontre, puisqu'elle a déterminé beaucoup de choses pour moi. Et en même temps, le temps ne fait rien dans cette affaire, parce que nous sommes comme hors du temps. Je vous en lis une autre, alors c'est sûr, c'est à propos des mémoires intérieures. Nous sommes un tout petit peu plus tard, et là c'est intéressant, parce que j'ai mon nom d'écrivain qui est apparu entre-temps, parce que vous savez que Mauriac a écrit un grand article sur moi au moment de mon premier essai, et a dit cette chose. Là, vraiment, c'est la date qui compte, puisque j'aurais été le premier à écrire ce nom, et en effet, c'est lui dans l'Express à l'époque, dans son bloc-notes. Mais alors, à Philippe Solers, voilà, ça, ce sont les mémoires intérieures. C'est à Paris, le 25 avril 59, donc 3 ans après, et là, je m'appelle donc Solers, voilà. Et il écrit ça, une vie d'écriture et de lecture, mes livres ceux des autres, ai-je vécu, ai-je rêvé ma vie, notre vie est un songe, nous nous réveillerons le jour de notre mort, de tous les songes, l'amitié aura été le plus doux, le plus vain, celui que j'aurai le plus aimé. À vous, cher Philippe, le dernier venu, et non le moins cher. Voilà. Alors, appelez-moi le dernier venu, en effet, dans la vie de Mauriac, que j'ai vu d'ailleurs mourir en 1970 et dont j'ai veillé le corps par la suite. Je continue, si vous permettez,
si vous le voulez,
pour préciser la façon dont Mauriac passe à travers le temps.
Peut-être simplement pourrait-on dire aux auditeurs que dans cette dernière table ronde, c'est une table ronde où vous êtes seul, c'est quasiment un comptoir qu'il y a entre nous aujourd'hui, eh bien, elle sera un petit peu différente des autres, dans le sens où vous y lirez ce que vous avez décidé d'y lire, et puis moi, évidemment, je tenterai de poser des questions.
Vous tenterez quand vous voudrez. Mauriac, la musique, donc, a commencé par Mozart. Mauriac est de loin la meilleure oreille de son temps. J'ai parlé de sa voix, maintenant je parle de son oreille. Parce que la musique, c'est quand même fondamental. Un soir de 1948, il écoute Idoménée à la radio. L'opéra est joué à Cambridge. Et il écrit « Je sentais battre le cœur de l'Europe, suspendu au chef-d'œuvre comme l'essaim à la branche. L'Europe, elle sort d'une catastrophe. Elle est ruinée. Le fou furieux de Berlin laisse place au bourreau méthodique de Moscou. Mais la musique est plus forte que l'horreur systématiquement programmée et son cortège sinistre. À Aix, un peu plus tard, et je précise que Mozart, qui était peu joué, au 19e siècle, non, n'en parlons pas, mais petit à petit de nouveau au 20e siècle, a une portée de plus en plus profonde, notamment pour ce qui s'est passé dans la destruction, la dévastation de l'Europe. Or, nous y sommes, c'est maintenant. Mais là, nous sommes en 48-50, et Mozart, c'est Mauriac qui en parle, un des premiers, qui en reparle. Nous sommes loin de Wagner, n'est-ce pas ? À Aix, voilà ce qu'il écrit. Regardez comme c'est beau. Parfois, les feuillages profonds des platanes s'émeuvent et le souffle frais qui caresse nos visages soulève dangereusement les partitions sur les pupitres. Et puis tout s'apaise et la lune elle-même écoute derrière les branches. Le Mauriac gaulien des années 60 nous cache. Celui qui auparavant a été un des adversaires les plus constants et les plus efficaces de la mécanique totalitaire. Sur De Gaulle, ce fragment de 1962 dit l'essentiel. Voilà un homme contre lequel sont ameutés tous les vieux partis de la gauche révolutionnaire à la droite la plus extrême et la plus criminelle. En passant par le centre le plus modéré et presque tous les grands journaux de la province et les hebdomadaires à la mode. Sans compter les généraux mutinés, les tueurs à gages et les tueurs mystiques. Pour les gens du monde, ils grincent des dents et de la fourchette au seul nom de De Gaulle. La haine leur monte au nez dès le premier whisky. Et oui, c'était ainsi.
Pourquoi ces extraits
Parce que je crois qu'il est très important de reparler de la politique de Mauriac, et nous verrons plus tard, pour entrer dans sa littérature. Il est d'une urgence extrême, politique, historique, de reparler de sa politique.
Vous voulez dire aujourd'hui?
Aujourd'hui même, oui, en ce moment, je viens de parler de l'Europe, n'est-ce pas? Nous sommes...
Vous savez qu'il y a un colloque, il y a eu un colloque à Gênes consacré à François Mauriac et l'Europe.
Voilà. Enfin, mais... Et j'espère qu'il n'y avait pas trop d'universitaires pour gommer et gazer les choses essentielles, c'est-à-dire les plus violentes. Je viens de faire résonner quelque chose, n'est-ce pas? Parce que quand vous entendez « Ils grincent des dents et de la fourchette au seul nom de De Gaulle et la haine leur monte au nez dès le premier whisky », c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la force de Mauriac, c'est son style.
Mais vous avez pensé à François Mauriac immédiatement au lendemain du référendum?
Non, j'y pense pratiquement tout le temps. C'est quelqu'un qui m'accompagne. Et de toute façon, la question politique m'intéresse depuis toujours. Et je me souviens, et je dois me souvenir avec vous, que Mauriac était obligé à un moment donné de changer tous les soirs d'adresse parce que, au moment de la guerre d'Algérie, qui m'a affecté personnellement, c'était dangereux d'être qui il était. Parmi les auteurs insultés du XXe siècle, combien d'auteurs français l'ont été? Enfin, Sartre notamment, ou Gide. Mauriac a peut-être un record dans l'insulte qui lui a été délivrée. Mais revenons au début des années 50, si vous voulez bien. Qu'écrit Mauriac aussitôt? Il célèbre le J'accuse de Zola, rend hommage à Gandhi en regrettant qu'un pape n'ait pas fait une grève de la faim en temps voulu, se préoccupe surtout de la machine à décerveler stalinienne. Ce qui le scandalise est moins le mal en soi, le mal est le mal, que les contorsions hypocrites pour le faire apparaître comme naturel ou nécessaire. De ce point de vue, Sartre le choque moins que Gide. Sartre est un athée providentiel qui, comme disait Pascal, blasphème ce qu'il ignore, alors que Gide, lui, renie ce qu'il connaît. Camus, que Mauriac appelle notre penseur numéro 2,
notre journaliste numéro 2 également,
reproche à Mauriac de ne pas vouloir reconnaître la mort heureuse, paraît-il, de Gide. La réplique est cinglante. Il n'y a de mort heureuse pour personne, monsieur Camus. La mort n'est pas à comptabiliser. Soyons du petit nombre de ceux qui croient, en esprit et en vérité, guillemets, qu'un seul homme, quelle que soit sa race, a une valeur infinie. Les staliniens, eux, à l'époque, en plein délire religieux inversé, c'est le moment des convulsionnaires de l'humanité, dit Mauriac. Et là, ils se déchaînent. Pour vous, leur dit-il, la démocratie n'est qu'un faux-né. Un faux-né qui ne trompe plus personne et que vous rajustez sans cesse d'une main hésitante sur votre figure de petit bourgeois fanatisé. La colombe de la paix de Picasso. Les peuples béats sont tombés à genoux devant cette merveille. Picasso a dessiné une vraie colombe qui ressemble à une photographie de colombe primée à un concours de colombes. Il faut s'entendre. Soit vous reconnaissez vos crimes comme tels en poussant la provocation comme Aragon jusqu'à justifier après coup le pacte germano-soviétique, qu'on devrait d'ailleurs appeler le pacte Stalin-Nazi, et par conséquent le martyr de la Pologne, d'où est sorti récemment un pape comme par hasard, soit vous vous taisez. Exemple du grand Mauriac de 1949, s'adressant à une journaliste communiste, qui prétendait qu'il n'y avait pas de victimes en Russie sauf des traîtres. Croyez-vous donc, dit Mauriac, que Staline s'émeuve d'être considéré par nous comme un homme couvert de sang? C'est un bon laboureur appliqué à sa tâche, dont le soc déchire la glèbe humaine et la fouille jusqu'aux entrailles. Consentez à être comme lui ce que vous êtes, l'ouvrière d'une cité où seul compte dans l'homme son rendement et qui a perdu le droit et l'envie de s'attendrir, fût-ce sur les victimes des autres. Remettez ce mouchoir dans votre petit sac et osez regarder en face votre épouvantable vérité. Alors, oui. Là, je souligne, ce petit sac hein, mérite la postérité. Voyez,
donc, nous avons donc là évoqué le fait que François Mauriac, sur tous les fronts, finalement,
la guerre
a eu raison.
La ouais. guerre d'Espagne, Staline, Hitler, le nazisme, n'oubliez pas la magnifique image, n'est-ce pas, de la croix gammée comme une araignée gorgée de sang, le cahier noir, la guerre d'Algérie, enfin, qu'est-ce que vous voulez.
Et pourtant, sur le moment, il n'était pas perçu comme ayant raison. Philippe Sollers,
il n'est pas perçu comme
lui-même, je ne dirais pas que c'est un reniement, mais écrivait en 1972, plutôt répondait dans une interview de Jean-Jacques Brochier pour le magazine littéraire, en parlant de votre adoubement, comme on a dit, par François Mauriac. Lorsque des livres suscitent des articles comme celui de Mauriac sur le défi ou celui d'Aragon sur une curieuse solitude, c'est que l'auteur est piégé par le système et il vaut mieux s'en rendre compte le plus vite.
Oui, mais ça, c'est
quand on est porté sur les fonts baptismaux de la foi par le Vatican et le Kremlin, comme cela s'est fait pour moi à 20 ans, c'est le signe qu'il faut réagir.
En effet, il fallait aller ailleurs, mais ça c'est mon parcours personnel.
Ouais. Mais c'est pour illustrer qu'à l'époque, effectivement, François Mauriac n'est pas considéré comme quelqu'un qui a toujours raison, n'est-ce pas ?
Je crois que là, je n'aborde pas du tout la question politique. J'aborde simplement la question du pouvoir qui était à ce moment-là très fort de Mauriac et Comaragon comme voulant célébrer quelqu'un, etc. Ces éloges devaient en principe m'arrêter. Donc j'ai été plus loin, ça c'est ma propre aventure, je vous en parlerai savamment un autre jour. Mais voilà, nous sommes là pour faire les comptes, d'une certaine façon, de ce XXe siècle. Dans ce XXe siècle, je trie, je vois, et qui me semble s'être le moins trompé sur des choses quand même essentiel, c'est Mauriac.
Vous voulez dire parmi les écrivains ?
Voilà, justement, et c'est une question de goût, figurez-vous. Voilà pourquoi. Drieu a été séduit par